RCF.
Hospitalité. Le mot résonne comme un éloge très souvent. Si l'on est bien accueilli, on parle d'une personne hospitalière. Quand on est bien accueilli dans un pays, on dit que ce peuple est hospitalier. Parfois, nous sommes confrontés à l'inhospitalité. Une contrée peut nous paraître inhospitalière, voire parfois un peuple peut nous paraître inhospitalier. Plus rarement, on entend parler d'inhospitalité. On peut dire que le paysage est inhospitalier, la contrée est inhospitalière. Et pourtant, c'est bien cette notion, c'est bien ces comportements, c'est bien aussi cette façon hostile presque d'accueillir qui semble s'imposer aujourd'hui, notamment dans les nations occidentales. Cette inhospitalité souvent se drape d'oripeaux qui justifie l'inhospitalité au nom du droit, très souvent notamment. Au nom aussi, ai-je entendu parfois, du seuil de tolérance. Quelle tolérance ? Finalement, la question de l'inhospitalité s'est installée au cœur de nos sociétés et ébranle nos consciences. Un seul chiffre, je citerai un seul chiffre, témoigne de l'ampleur que prend cette question dans nos sociétés. Dans le monde, le nombre de migrants internationaux a atteint, selon l'ONU, 281 millions. Je n'entrerai pas dans les détails, nous y reviendrons avec Jakob Rogozinski, qui est aujourd'hui mon invité, pour son ouvrage précisément intitulé « Inhospitalité ». Inhospitalité, essai magnifique, touchant, intéressant, que le philosophe qu'il est publie aux éditions du CERF. Bonjour Jakob Rogozinski.
Bonjour Monserrate Vidal et merci de votre invitation.
Alors, ce n'est pas le premier essai que vous publiez, loin s'en faut, aux éditions du CERF. Pour mémoire, je citerai « Le moi et la chair »,« Guérir la vie », vous êtes passionné par Antonin Artaud notamment, et peut-être davantage lié à l'essai dont nous allons parler aujourd'hui, « Ils m'ont haï sans raison, de la chasse aux sorcières à la terreur ». Et puis d'autres encore, mais ces ouvrages, nous en parlerons peut-être au fil de notre discussion. Cet ouvrage, il me semble qu'il est non pas dicté, mais inspiré, et peut-être qu'il apparaît aussi, il m'apparaît aussi, comme un hommage à vos parents. Et c'est peut-être cela qui m'a immédiatement touchée lorsque j'ai eu votre essai entre les mains. À la mémoire de deux immigrés, Raphaël et Sarah Rogozinski, mes parents. Il est rare qu'on trouve un essai philosophique consacré à ses parents. On peut consacrer un roman à ses parents, un récit, une autobiographie. Mais là, un essai philosophique qui porte sur l'inhospitalité. Alors, cet essai est-il étroitement lié à l'histoire de vos parents et donc à votre propre histoire ? Et en quoi, si je dis vrai, cette histoire nourrit-elle votre réflexion philosophique ?
Oui, effectivement, c'est assez rare qu'un philosophe dédie un de ses livres à ses parents. Bon, ça reste malgré tout un livre de philosophie. Je l'ai voulu destiner à un public large. Donc bon, c'est un livre court. J'ai essayé de le rendre le plus clair possible. J'espère
qu'il est
arrivé.
Très clair. Un livre court, allez, n'importe qui d'entre nous, même s'il n'est pas philosophe, peut le lire. Je donne le nombre de pages, si vous permettez.
Si vous voulez, oui.
125 pages. On peut le lire sans aucun problème.
Voilà, donc je voulais m'adresser au grand public parce que c'est un problème brûlant, c'est un problème qui nous concerne tous, qui va encore nous concerner pendant des années. Alors oui, deux motivations, une plus lointaine et une plus récente. La plus récente, c'est, bon, je suis consterné, plus que consterné, je suis en fin de compte horrifié de voir la montée de la xénophobie, du racisme, du rejet des migrants et des immigrés, non seulement en France, mais dans toutes les nations occidentales, hein, avec parfois des dimensions tout à fait effrayantes. Bon, donc là, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché. J'ai commencé à m'intéresser aux démographes, j'ai cherché bon, des chiffres, des études sérieuses, hein. Bon, enfin, des chercheurs scientifiques incontestables, et puis on découvre par exemple qu'en France, le solde migratoire, c'est-à-dire le nombre de gens qui restent par rapport au nombre d'étrangers qui s'en vont chaque année, est de 65 000. 65 000. Bon, 0,1% de la population.
C'est un chiffre
on
que
est
vous
très loin
citez,
de ce dont parle le discours
submersion,
dominant.
Submersion, entend-on souvent. Voilà. Submersion migratoire.
Voilà, submersion, invasion, intrusion, frontières passoires, grand remplacement. Bon, les étrangers ou les descendants d'étrangers sont environ 10% de la population. On voit assez mal comment 10% peuvent remplacer les 90% restants, surtout si leur nombre s'accroît de 0,1% par an. Donc là, il y a une sorte de décalage tout à fait étonnant, sidérant, entre la réalité des faits et la vision halluciné, angoissé, qui est répandu un peu partout dans les médias, qui est reprise par certains hommes politiques. Donc c'est mon étonnement, ma stupeur devant ce décalage-là qui m'a interrogé. Mais bon, puisque vous évoquez mes parents, oui, bon, il y a quelque chose qui renvoie, qui est plus intime. Bon, ce n'est pas un essai d'autofiction ou d'autobiographie, j'en suis hélas incapable, hein. Je ne suis qu'un philosophe, je travaille avec des concepts, donc voilà. Mais c'est vrai que mes parents étaient des migrants qui ont quitté leur pays natal, la Pologne, après la Seconde Guerre mondiale. Bon, ils ont quitté leur pays parce que tout leur monde, le monde dans lequel ils vivaient, leur famille avait été réduit en cendres, au sens littéral du terme. Et donc, ils cherchaient à émigrer ailleurs. Et la France les a accueillis avec beaucoup de générosité, hospitalité. Je suis né français quelques années avant que mes parents eux-mêmes le deviennent par naturalisation, grâce au droit du sol qu'aujourd'hui on tend à remettre en question. Donc j'ai été accueilli, mes parents ont été accueillis, j'ai été moi-même accueilli par la France de manière très généreuse, et cet accueil hospitalier a fait de moi ce que je suis. Bon, donc il y a une sorte de dette qu'une vie entière ne suffira pas à réparer. Et alors je me suis posé la question, pourquoi à ce moment-là, des étrangers pouvaient être accueillis sans réserve, et pourquoi aujourd'hui d'autres étrangers venant de pays différents, mais à la limite peu importe, sont considérés avec inquiétude, avec angoisse, avec méfiance comme étant bon des intrus, des étrangers dangereux qui risqueraient bon de menacer la vie commune en France. Alors là, il y a un second décalage, un décalage historique qu'il fallait aussi interroger. Donc voilà, ma manière à moi d'être reconnaissant envers la France, c'était de me demander pourquoi est-ce que la France n'est plus aussi accueillante qu'elle l'avait été autrefois. Qu'est-ce qui s'est passé?
Vous constatez, à la fois à titre personnel, même s'il s'agit de vos parents, mais aussi en tant que philosophe, une sorte de rupture radicale sur plusieurs décennies. Cette rupture, elle a peut-être duré un certain temps avant de prendre les formes parfois terrifiantes qui sont celles d'aujourd'hui. Mais si nous revenons encore plus avant, votre essai commence d'abord par une citation qui est celle du Lévitique. Et donc, dans le monde biblique, je vous cite, « Si tu reçois un étranger, ne l'opprime pas. Que l'étranger soit chez toi comme s'il était d'ici. Aime-le comme toi-même. Vous aussi, vous avez été étrangers au pays d'Égypte. » La Bible, donc, le Lévitique. Et puis, les premières pages, dans votre introduction, présentent également une citation de l'Évangile selon Matthieu. « J'ai eu faim. » Et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. Il y a bien une rupture entre le monde biblique, le monde chrétien, mais aussi avec le monde grec qui accueillait l'étranger, comme si peut-être un dieu se cachait dans les vêtements de cet étranger qui arrivait devant la porte. Cette rupture, oui. Comment l'analysez-vous, Jacob Rogodinsky?
Oui, il faut, si on lit par exemple l'Odyssée d'Homère, qui est un très grand traité sur l'hospitalité et aussi sur l'inhospitalité, parce qu'il y a des autres qui ne sont pas très hospitaliers parfois, le Cyclope et quelques autres. Hein, mais voilà, c'est un immense traité sur l'hospitalité. Et on voit que la grande question, lorsqu'un étranger arrive dans un autre pays, les gens se demandent, bon, est-ce que c'est un dieu ou est-ce que c'est un être humain? Bon, en tout cas, il y a un devoir sacré d'hospitalité. Voilà. Et ça s'est poursuivi, bon, durant des siècles. Et aujourd'hui, bon, on a l'impression que tout ceci a disparu. Aujourd'hui, on assiste à la naissance et à l'expansion rapide de ce que j'appelle dans mon livre un dispositif d'inhospitalité. C'est-à-dire un dispositif qui vise à détruire, à anéantir tous les espaces qui étaient traditionnellement, bon, destinés à l'hospitalité. C'est un dispositif, c'est-à-dire un ensemble d'institutions, de gestes, de représentations, d'images, de pratiques. Et encore une fois, bon, c'est un processus qui est en grande partie anonyme, même s'il y a des hommes et des femmes qui s'en font les relais. Mais c'est un dispositif qui fonctionne de lui-même, qui s'est mis en place. Il n'y a pas de complot, pas de plan préétabli. Ça s'est mis en place à travers une série de politiques, de décisions, de stratégies.
Vous maintenant, parlez ce dispositif même de s'accroît. Petites décisions qui se succèdent les unes aux autres et qui, en somme, constituent ce dispositif de pouvoir et ce dispositif d'inhospitalité. Des murs que l'on construit, des grillages que l'on met en Hongrie, par exemple, ou un mur entre le Mexique et les États-Unis. Il y a ces choses auxquelles on prête fugitivement attention, parce que on nous en parle de temps en temps, comme l'on dit, aux actualités, mais qui, en somme, réserve à l'étranger, aux migrants, un sort qui est proprement terrifiant, parce qu'il y a inhospitalité, mais aussi hostilité.
Oui, alors, on peut remarquer d'ailleurs que hospitalité et hostilité ont une racine commune, un vieux terme indo-européen, enfin, passé par le latin. C'est d'ailleurs très intéressant. Et un des auteurs que j'évoque assez longuement au début du livre, qui est Derrida, a essayé de travailler justement sur cette proximité entre l'hostilité, qui a donné aussi le mot hôte, ou ghost en anglais, fantôme, bon. Et l'hospitalité, l'hôpital, etc., etc. Et Derrida a forgé ce néologisme, l'hostipitalité, nous y reviendrons tout à l'heure. Oui. Et oui, la grande question, c'est de quoi avons-nous peur? Voilà. Oui. S'il est vrai qu'on n'assiste pas à une invasion massive d'étrangers dangereux, comment se fait-il qu'on se représente cela comme une invasion massive? Et bon, ces gens qui viennent, qui sont des étrangers en danger, des gens qui ont bravé les déserts, les féroces milices libyennes, la traversée de la Méditerranée dans des Alpes, du nord du Mexique, des déserts du nord du Mexique, dans des conditions terribles, où beaucoup sont morts. Ben, comment se fait-il que ces étrangers en danger, ces gens démunis, ces gens précaires, sont vécus au contraire comme des étrangers dangereux, c'est-à-dire comme des menaces?
L'étranger en danger devient l'étranger dangereux. C'est cette inversion que vous soulignez notamment dans votre essai.
Tout à fait. Et là, il y a quelque chose qu'il s'agit d'interroger. J'ai voulu comprendre les origines et le sens de cette panique face à l'autre. Bon, xénophobie, le terme est très très parlant. Un xénos, c'est l'étranger en grec. Et phobie, bon, c'est la phobie, c'est le fait d'avoir peur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, phobie, c'est aussi le nom d'une pathologie mentale. Oui. Donc, à la fin du livre, j'ai eu recours à la psychanalyse, parce que je pense que la xénophobie, il faut aussi la penser comme une phobie, c'est-à-dire comme une pathologie collective. Alors, je ne sais pas qu'on pourrait la soigner, mais en tout cas, il faut aussi la penser comme ça. Alors, le problème, c'est que la peur et l'angoisse engendrent facilement la haine. Lorsqu'on a affaire à quelque chose ou quelqu'un, qui nous fait très peur. On a le désir de fuir, et si on n'arrive pas à fuir, on a le désir de le détruire, de l'anéantir. Et là, bon, l'angoisse se transforme en haine. Et d'où le sens courant de xénophobie, haine de l'étranger. Cette haine s'enracine dans une angoisse. D'où vient cette angoisse ?
Je parlais tout à l'heure d'un précédent essai que vous avez intitulé « Ils m'ont haï sans raison, de la chasse aux sorcières à la terreur ». Ce travail que vous aviez fait, cette recherche que vous aviez faite concernant la chasse aux sorcières, notamment au Moyen-Âge, puis la chasse à l'étranger, hein, au parti de l'étranger, pendant la terreur, a-t-elle nourri justement cette réflexion sur la peur de l'étranger, sur la xénophobie contemporaine ?
Oui, oui, tout à fait. Bon, je ne pensais pas encore à travailler sur l'hospitalité quand j'ai écrit ce livre il y a presque une dizaine d'années déjà. Mais il y a une continuité. Pour essayer de comprendre cette persécution massive, non pas de sorcières, mais d'innocentes, parce qu'il y avait aussi des hommes. Quoi. C'était pas simplement une chasse aux femmes. Mais bon, des dizaines de milliers, ou peut-être même des centaines de milliers de femmes et d'hommes entièrement innocents ont été persécutés pendant plusieurs siècles, de traîner en jugement, torturés, forcés sous la torture à des confessions, brûlés, etc. Donc là, il y a une sorte de déchaînement de rage dont j'ai essayé de rendre compte. Et c'est à ce moment-là que j'ai forger un petit peu ce concept, cette notion d'un dispositif de persécution et de terreur. Hein, toujours cette idée que j'emprunte à Michel Foucault, d'un dispositif qui ne se réduit pas à une pensée, qui ne se réduit pas à des actions, qui est un ensemble complexe de représentations, de pensées, d'actions, de stratégies qui se déploie indépendant même de la volonté des gens qui l'entraînent. Alors bon, ces dispositifs se choisissent une cible et après, ils essaient de capter des sujets pour les entraîner au service de leur stratégie. Alors, comment est-ce qu'on peut capter des sujets ? On les capte par leurs sentiments, par leurs affects. Et ici, les affects sont les affects d'angoisse. Quelque chose de l'étranger nous angoisse. Et donc, ces dispositifs s'emparent de cette angoisse et ils captent, ils attirent des sujets dans leur champ d'attraction. Bon, il n'y a rien de très mystérieux. Bon, ça peut prendre la forme d'un empire médiatique bien connu avec ses chaînes de télévision et ses animateurs à la mode, ses chaînes de radio, ses grands journaux du dimanche ou d'autres jours. Bon, il y a des gens dont le métier consiste à semer la haine. À semer la haine par l'angoisse. C'est-à-dire à représenter sans arrêt, la figure de l'étranger dangereux. Donc des événements ordinaires, des simples faits divers, une bagarre à la suite d'un bal de village, le passage à l'acte d'un psychotique, des choses comme ça, qui arrivent tout le temps, dans tous les pays, depuis toujours. C'est monté en épingle comme étant la preuve que nous sommes victimes d'une, nous, Français, dit de souche. Formule très très bizarre. Enfin, que donc les Français seraient submergés par des étrangers dangereux qui seraient la cause de l'insécurité. Donc il y a à la fois un dispositif qui utilise certaines représentations, ce que j'appelle des schèmes, et il y a aussi le fait que ces schèmes peuvent s'inscrire, peuvent se greffer sur les angoisses, sur les fantasmes personnels de millions d'hommes. C'est ça qu'il faut tenter de d'élucider.
Nous allons écouter quelques notes de musique. On ne parle pas de migrants, mais de réfugiés.
Réfugié, tu as tous les droits. Marcher à quatre pattes ou au pas de loi. Réfugié, tu n'as plus de loi. Plus de terre ou de combat. Avoir des droits. Avoir un toit. Essayons un jour l'amour. Le jour où chez nous tu seras chez toi. Réfugié, réfugié, sommes tous, tous, tous des réfugiés. Bien sûr, on peut oublier, renoncer même au passé et abolir la mémoire. Comment faire un livre d'histoire?
Dialogue, Monserrata Vidal.
C'est Julien Clerc qui nous parle de réfugiés et non de migrants. Un texte qui date déjà de 2015, je crois, et dont les paroles sont bien différentes d'un petit discours ambiant, parfois d'un grand discours ambiant. Qu'en pensez-vous, Jacob Rogozinski, de ce texte, et ne serait-ce que de cette question sémantique, migrant, réfugié?
Oh, je crois qu'il y a assez peu de différence. Bon, il y a un statut juridique du réfugié. Et la plupart des migrants d'aujourd'hui sont d'une certaine façon des réfugiés en ce sens-là, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas continuer à vivre là où ils vivent, hein, en raison de la tyrannie, de la guerre, de la famine, de la sécheresse. Je pense que c'est jamais de bon gré, de bon cœur que quelqu'un décide de quitter la terre où il est né, la terre où il vit, etc. C'est toujours, surtout lorsqu'on sait que le voyage est dangereux, qu'on risque d'y mourir ou d'y subir toutes sortes de d'avanies extrêmement graves. Donc voilà, les migrants d'aujourd'hui sont comme des réfugiés. Non, ce que j'entends dans cette très belle chanson de Julien Clerc, c'est la formule qui, à la fin, nous sommes tous des réfugiés. Bon, là, vous citiez tout à l'heure au début de l'émission ce passage du Lévitique, donc de l'Ancien Testament, qui est très impressionnant, je trouve. Bon, on dit bon, voilà, accueille celui qui vient comme s'il était d'ici, aime-le comme toi-même, donc pas seulement le prochain, mais aussi le lointain, celui qui vient d'ailleurs. Hein. Car vous aussi, vous les Hébreux, vous avez été étrangers au pays d'Égypte. Et ça, c'est très intéressant parce que bon, il y a Paul Ricoeur, un très grand philosophe du XXe siècle, hein, philosophe chrétien. Il a essayé de, dans un petit texte qui est très beau, il a essayé d'esquisser une pensée d'hospitalité à partir de ce commandement biblique, à partir de ce rappel, vous aussi vous avez été étrangers, avec cette idée qu'au fond, nous tous, nous venons d'ailleurs d'une certaine façon. Hein, personne n'est de souche. Hein, d'abord, heureusement, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus mort, qu'est-ce qu'il y a de plus bête,
immobile
qu'une souche. Je veux dire, bon, ce qui est vivant dans l'arbre, ce sont les fleurs, ce sont les graines qu'il envoie dans le vent, au loin, mais la souche, c'est ce qui reste quand l'arbre est mort. Mais personne n'est de souche. Donc, directement ou indirectement, bon, dans mon cas, je suis la deuxième génération, donc c'est très proche, mais pour d'autres, c'est beaucoup plus lointain. Mais nous venons tous, d'une certaine façon, d'ailleurs, et nous avons tous, ajoute Ricoeur, en nous-mêmes, quelque chose d'étranger. Nous sommes tous étrangers sur la terre, comme dit une des épîtres d'un des apôtres. Et nous sommes tous venus d'ailleurs. Donc, il faut essayer de retrouver cette étrangeté qui est en nous. Et lorsqu'on découvre cette étrangeté, cet étranger que nous sommes, j'espère qu'on est un peu moins inhospitalier envers les autres étrangers. Hein, la condition d'étranger est la condition la plus commune. Nous la partageons. Hein, c'est aussi ce que dit ce très beau texte.
Votre essai commence, nous parlions de l'introduction à l'instant, mais votre essai commence par un chapitre qui est placé sous l'égide du philosophe Derrida. Lui aussi a pensé l'hospitalité, et bien sûr, à contrario, l'inhospitalité. Derrida, dans sa réflexion philosophique, comment présente-t-il l'hospitalité? C'est, dites-vous, une hospitalité inconditionnelle. Très étrange d'entendre cela aujourd'hui, où justement domine cette idée d'inhospitalité.
Oui, alors, bon, je suis intéressé à Derrida pour deux raisons. D'abord parce qu'il a beaucoup compté dans mon propre trajet. Hein, c'est, si j'ose dire, un maître pour moi. Quoi. Donc, je le critique assez durement dans mon livre.
Oui.
Mais bon, mais avec un immense respect, hein, parce que c'est l'infidèle fidélité. Je pense que c'est un très grand penseur. J'insiste parce qu'aujourd'hui, sa philosophie, la déconstruction, on en fait n'importe quoi, on l'interprète comme une pure déconstruction nihiliste, ce que ça n'est pas du tout. Mais il faut bien voir, donc, c'est sur l'hospitalité que Derrida était un des premiers parmi les contemporains à soulever cette question. Au milieu des années 90, lorsque commençait à se mettre en place ce que j'appelais tout à l'heure le dispositif d'inhospitalité. C'est ce qu'on appelait les circulaires Pasqua contre les immigrés clandestins. Alors Derrida a réagi aussitôt. Il a fait deux séminaires sur l'hospitalité, qui viennent d'ailleurs d'être publiés aux éditions du Seuil. Donc il est intervenu sur ces questions, et c'est un des premiers à l'avoir fait, un des premiers après deux siècles, après Emmanuel Kant, dont je parle par la suite.
Oui, nous en parlerons dans une seconde émission d'Emmanuel Kant.
Mais alors, s'agissant de Derrida, il réagissait contre l'hospitalité qu'il appelle conditionnée, c'est-à-dire une hospitalité qui... et a servi à des conditions politiques, économiques, juridiques, sécuritaires, vous en parliez vous-même tout à l'heure, c'est-à-dire une hospitalité qui consiste ainsi à sélectionner, à choisir le petit nombre qu'on laissera rentrer, et en rejetant dehors, en excluant, en enfermant, en expulsant, tous ceux qui n'obéissent, répondent pas aux conditions qu'on a posées. Donc il y a une sorte de révolte de Derrida, de colère contre cette hospitalité conditionnée qui est forcément sélective et qui donc, dit-il, devient du coup inhospitalière. Alors la réponse de Derrida, bon, il faut la prendre en compte, elle est intéressante, même si je pense qu'elle conduit à une impasse. Sa réponse consiste à dire, dans ce cas-là, il faut que l'hospitalité soit inconditionnée. Et ça, cette hospitalité inconditionnelle, ce qu'il appelle aussi une hospitalité à l'infini, il la place sur le plan de l'éthique, parce qu'il s'inspire d'un autre très grand penseur français du XXe siècle, qui est Emmanuel Lévinas. Donc l'hospitalité, c'est l'hospitalité que j'accorde à l'autre, à ce que Lévinas appelle le visage de l'autre, et elle doit être absolue, infinie, inconditionnelle. Donc il s'agit d'accueillir l'autre, dit Derrida, avant même de lui demander comment tu t'appelles, quel est ton nom, d'où viens-tu, pourquoi viens-tu ici, quelle est ta langue. Il faut s'ouvrir a priori à la venue de l'autre et lui accorder tout.
Il y a quelque chose de messianique, dites-vous même, dans cette conception de l'hospitalité.
Oui, il le dit lui-même, l'hospitalité doit être conçue comme un événement messianique. Alors ça ne veut pas dire que l'étranger lui-même soit le Messie, mais c'est-à-dire que sa venue, nous devons l'accueillir comme un événement messianique. Et je trouve que c'est trop. Là, on demande trop à l'étranger. On lui demande beaucoup trop. Et en plus, Derrida va très loin, parce que c'est un penseur extrêmement radical. Il pousse à l'extrême les idées. Il y a quelque chose d'hyperbolique chez lui. Alors il dit, même si l'étranger qui vient est menaçant, même s'il est dangereux, je dois l'accueillir quand même. Si on ouvrait sa porte qu'à des gens bienfaisants, pacifiques, dont on n'attend que du bien, ce ne serait même pas d'hospitalité. Voilà. Alors là, ça me paraît problématique pour beaucoup de raisons. Mais ça me paraît problématique parce que ça survalorise beaucoup trop la figure du migrant. Celui qui vient, il demande d'être reçu comme un homme. Et non pas comme un dieu, comme le fils de Dieu, je veux dire, non. Et en plus, dire qu'on doit accueillir à tout prix, de manière inconditionnelle, quoi qu'il en coûte, même si l'autre qu'on accueille est dangereux, ça ne peut que renforcer l'angoisse que une grande partie des gens, des citoyens, éprouvent par rapport à cette soi-disant invasion migratoire. Donc Derrida, par le côté extrême, extrêmement radical de sa pensée, je trouve qu'il fait le jeu de la xénophobie. Il renforce cela même qu'il voulait combattre. Donc ça aboutit, je crois, à une impasse. Il faut chercher ailleurs le principe de l'hospitalité.
Merci Jacob Rogozinski. Nous allons chercher ailleurs dans une seconde émission où nous allons envisager l'apport de Kant, notamment, également l'idée de nation, de déconstruction de la nation. Et je vous dis à très bientôt.